Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 11 août 2014. Il est 6h temps universel en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
En République centrafricaine, nomination d'un nouveau Premier ministre, Mahamat Kamoun, un musulman.
La Caroline du Nord, ici aux États-Unis, mettra en quarantaine toute personne rentrant d'Afrique et ayant travaillé avec des malades souffrant du virus d'Ebola.
En Irak, les forces loyales au Premier ministre Maliki encerclent la maison du président Fouad Massoum.
L'aviation américaine a pour sa part poursuivi hier ses frappes contre les militants de l'État islamique près d'Erbil, dans le nord de l'Irak.
Israéliens et Palestiniens acceptent d'observer une nouvelle trêve de 3 jours à Gaza.
Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. À Centrafrique a depuis hier un tout nouveau Premier ministre, Mahamat Kamoun, 52 ans, de confession musulmane, économiste et ancien conseiller à la présidence. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1960 qu'un musulman occupe la fonction de Premier ministre. Le point avec notre correspondant à Bangui, Thierry Bomba.
Il s'appelle Mahamat Kamoun, financier. Il était directeur général du Trésor public peu après la prise de pouvoir par Bouzizé en 2003. Après son lâchage, il partit pour les USA, d'où il ne revint qu'en mars 2013 pour occuper le poste de directeur de cabinet de l'ancien président de Toudia. Arrivé aux affaires en janvier 2014, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a fait de lui ministre conseil personnel à la présidence de la République. La tâche ne semble pas du tout aisée pour le Premier ministre Mahamat Kamoun, qui devra d'abord gagner la confiance des leaders de la CELICA, qui sont pourtant de la même confession que lui, et qui sont malheureusement sur une autre longueur d'onde, contrairement aux anciens Balaka qui se disent disposés à travailler avec lui pour un retour rapide de la paix sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Thierry Anatole Bombamédourou, Bangui, Voix de l'Amérique.
Poursuite de la mobilisation contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui a fait plus de 960 morts en Afrique de l'Ouest. Des détails avec Idriss Fall.
Au Libéria, une des dernières victimes est une Congolaise qui travaille pour une mission catholique espagnole. En Sierra Leone, Kailahun et Kenema sont toujours en quarantaine avec l'état d'urgence. Le confinement pourrait durer 60 à 90 jours. La Guinée, épicentre de la maladie, a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. Le Nigeria est le quatrième pays affecté avec 13 cas suspects ou confirmés, dont 2 mortels. L'épidémie, pour le moment, est limitée à l'aigle. Le Tchad a suspendu tous les vols en provenance du Nigeria voisin. Au Sénégal, un cas suspect signalé à Wourossogui dans le nord-est du pays. Ici même aux États-Unis, la Caroline du Nord adopte des mesures de prévention et va mettre en quarantaine ceux qui reviennent d'Afrique et qui avaient travaillé avec les malades. L'Organisation mondiale de la santé a convoqué aujourd'hui une réunion virtuelle des experts d'éthique pour explorer l'utilisation de traitements expérimentaux. Les conclusions sont attendues demain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, des troupes loyales au Premier ministre Nouri al-Maliki ont encerclé la maison du président Fouad Massoum. C'est ce qui ressort des dépêches datées de Bagdad. Henri Francisque.
On ne possède pas tous les détails de ces informations signalant des déploiements de troupes autour de la zone verte, un quartier hautement protégé qui abrite les institutions clés de l'Irak. M. Maliki est soumis actuellement à de fortes pressions pour renoncer à son intention de briguer un troisième mandat. Il a annoncé à la télévision qu'il allait déposer une plainte contre le président Fouad Massoum pour avoir violé clairement la Constitution. Nouri al-Maliki, dont la coalition a obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives d'avril, accuse le président de n'avoir pas nommé, avant le délai qui tombait hier dimanche, un nouveau Premier ministre issu du plus important bloc parlementaire. Selon lui, Fouad Massoum a choisi l'inaction à des fins politiques. Ici à Washington, le département d'État américain a exprimé son soutien total à M. Massoum, qui a été élu président par le Parlement le mois dernier.
Pendant ce temps, dans le nord de l'Irak, les États-Unis ont lancé hier une nouvelle série de raids aériens contre les militants de l'État islamique.
Oui, les avions de combat et drones américains ont ainsi détruit un camion équipé d'armes qui tirait sur les forces kurdes près d'Erbil et ont lancé 4 autres attaques contre d'autres camions et une position de mortier. C'était la 4e série de frappes aériennes en Irak depuis que le président Barack Obama en a donné l'autorisation la semaine dernière pour la première fois depuis qu'il a retiré toutes les forces américaines fin 2011 après une présence de près d'une décennie.
Les États-Unis tentent ainsi d'enrayer l'avancée des forces de l'État islamique qui, dans le nord de l'Irak, menace Erbil, la capitale de la région semi-autonome kurde. Par ailleurs, Washington et Londres fournissent aussi une aide humanitaire à des milliers de chrétiens, yézidis et autres minorités religieuses bloquées par les militants sur une montagne.
Hier soir, le département d'État américain a annoncé le retrait temporaire d'une partie du personnel de son consulat à Erbil.
Israéliens et Palestiniens ont commencé une nouvelle trêve de 3 jours à Gaza pour se donner une autre chance d'arriver à un cessez-le-feu durable dans ce conflit qui a fait en un mois quelques 2000 morts.
L'Égypte a aidé à négocier cette trêve qui est entrée en vigueur tôt ce matin et l'Égypte continuera sa médiation entre Israël et le Hamas au pourparlers du Caire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est félicité de la trêve et il a exprimé le grand espoir que les deux parties accepteront d'arrêter ce conflit au nom de tous les civils. Il a ajouté que l'ONU est prête à aider à l'application de tout accord qui apporterait la paix et la chance d'une reconstruction et d'un développement dont on a tant besoin à Gaza.
En Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2003, a été élu hier président pour un mandat de 5 ans. Pour la première fois, le pays tenait une élection présidentielle au suffrage universel direct, Isiak Abba.
Recep Tayyip Erdogan a largement devancé ses deux adversaires avec près de 52% de suffrage. L'opposant Ekmeleddin İçanoğlu a réuni près de 39% et Selahattin Demirtas de la majorité kurde a obtenu plus de 9%. Paradoxalement, le triomphe d'Erdogan intervient après une année politique difficile. En juin 2013, des millions de Turcs ont manifesté dans les rues pour dénoncer sa dérive autoritaire et islamiste. L'hiver dernier, un scandale de corruption a éclaboussé le pouvoir. Monsieur Erdogan avait dénoncé un complot de son ex-allié islamiste, Fethullah Gülen. Il avait fait purger la police et museler les réseaux sociaux. En mars dernier, il a remporté les élections locales et reste très populaire dans un pays qu'il a débarrassé de la tutelle de l'armée. Après cette victoire, il rejoint ainsi le père fondateur de la République laïque, Mustafa Kemal Atatürk, parmi les dirigeants emblématiques de la Turquie.
Voilà pour le journal. Merci à Albertson, Washington, la voix de l'Amérique. On vous le disait dans la première partie de cette émission, la Centrafrique a depuis hier un tout nouveau Premier ministre, Mahamat Kamoun, 52 ans de confession musulmane, économiste et ancien conseiller à la présidence. C'est la première fois depuis l'indépendance en 1960 qu'un musulman occupe la fonction de Premier ministre. Il aura la délicate mission de relancer la transition politique et mettre en œuvre un fragile accord de cessez-le-feu signé fin juillet à Brazzaville. Sur les défis les plus pressants qui l'attendent, Idriss Fall a joint à Bangui le Premier ministre Mahamat Kamoun.
Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Catherine Samba Panza, présidente de la Transition, pour la marque de confiance qu'elle a manifestée envers moi en me portant à la tête de ce gouvernement. Je remercie également les forces vives de la nation qui ont été consultées par la présidente, mais aussi la population centrafricaine que je remercie de tout cœur, les compatriotes, dont la majorité a bien accueilli cette nomination.
Quelles seront vos priorités les plus immédiates?
Le plus immédiat à faire, c'est de réfléchir et mettre en place le nouveau gouvernement. Nous allons commencer une série de consultations avec la présidente de la République pour choisir les personnalités qui feront partie de cette nouvelle équipe.
Vous vous donnez combien de temps?
Je ne peux pas vous dire que c'est dans 2 jours ou 3 jours.
Nous avons le délai fixé par la charte, mais nous savons qu'il faut aller aussi vite, mais il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Ce qui est sûr, dans les tout prochains jours, le peuple centrafricain prendra connaissance, sera les personnalités, les fils et les filles du pays qui sont appelés à travailler dans le nouveau gouvernement.
Quand sera-t-il de l'accord fragile de cessez-le-feu conclu à Brazzaville?
Vous parlez de fragilité. J'ose espérer que c'est un point de départ. Tout le peuple centrafricain, les forces vives de la nation sont déplacées à Brazzaville sous la houlette de la médiation internationale de son excellence Denis Sassou Nguesso, président du Congo, et toute la communauté internationale pour parvenir à cet accord qui est un point de départ essentiel et qui va ouvrir la voie à d'autres étapes, à savoir les concertations intracommunautaires et ensuite il y aura un grand forum national pour la réconciliation ici à Bangui. Et si tout va bien, nous nous appellerons à ce que ces deux exercices-là puissent avoir lieu d'ici la fin de l'année. Comme vous le savez, la réconciliation nationale, c'est un processus long et toutes les parties prenantes aux archives de Brazzaville ont démontré devant le monde entier, signé cet accord, qu'ils vont renoncer, notamment les groupes armés, ils vont renoncer à la violence.
Mais l'état-major des ex-Seleka, qui est basé à Bambari, disait ne pas se sentir concerné par cet accord.
Ce qui me surprend, dans la mesure où la Seleka a eu des représentants au niveau politique, au niveau militaire.
Mais le numéro 2, Nouredine Adam, avait suspendu le signataire lui-même en la personne du général Mohamed Moussa Dafane.
Bon, il s'agit pour moi de querelles intestines. Je ne vais pas rentrer dedans, donc je laisse tout et chacun de notre responsabilité.
C'était le nouveau Premier ministre centrafricain, Mahamat Kamoun.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Quelques 300 Maliens de la Centrafrique ont pu regagner Bamako. Ils ont bénéficié d'une énième opération de rapatriement des Maliens de ce pays d'Afrique ravagé par la guerre civile. Ils arrivent soulagés dans leur pays d'origine, bien que la plupart soient venus les mains vides, laissant derrière des biens pour certains, des parents pour d'autres. Ils ont été rapatriés grâce au gouvernement malien qui a loué un avion d'Ethiopian Airlines pour assurer leur transport de Bangui à Bamako. Reportage sur place de notre correspondant Kassim Traoré.
Ils sont environ 300 Maliens qui sont revenus au pays. Pour beaucoup, c'est de plus en plus insupportable de vivre en Centrafrique. À sa descente d'avion, nous avons croisé Simba Diarra, un Malien qui a vécu les 34 dernières années de sa vie à Bangui en Centrafrique. Il revient au pays les mains vides, mais ambitionne de rejoindre ses proches en Europe du Sahel, dans la région de Kaï. Simba Diarra.
En décembre 80, je suis arrivé à Bangui. Depuis lors, je suis là-bas, je fais des va-et-vient. Il y a eu des moments paisibles à Bangui. Il y a eu des moments difficiles, des moments très durs. Mais ces 6 derniers mois-là, c'était un peu difficile. Très difficile avec la guerre. On a des concessions là-bas, on a un peu de tout. Bon, on a des parents qui sont là-bas jusqu'à présent. J'ai des enfants de mon grand-père qui sont dans la concession. C'est le destin. Mais on a préféré être là chez soi. C'est ce qu'on peut dire. Je vais au village natal. Ça, c'est la possibilité dans ces deux jours même.
Awa Gari est une jeune Malienne de 20 ans. La native de Bangui foule pour la première fois le sol de son pays d'origine. Mais elle ne compte plus retourner en Centrafrique compte tenu de l'horreur qu'elle a laissé derrière elle à Bangui.
Moi, je n'ai rien laissé. Tout ce que j'ai laissé là-bas, c'est gâté. C'est gâté à cause de cette guerre-là. Ils ont détruit notre maison. Tout ce qu'on a, ils ont détruit. Nous, on est venus avec les habits seulement. On va partir chez la famille comme ça. À Bokassambourou, ma famille, on a tué ma famille. 3 personnes, on a tué 3 personnes. Après, on a gâté notre maison. Donc, moi, je me sens choquée, quoi. Ça me fait mal de retourner même en Centrafrique. C'est pas un pays.
Cette opération qui a duré 2 mois est la concrétisation de plusieurs efforts. Car la délégation malienne qui était à Centrafrique a cherché les Maliens au-delà de Bangui. Abdramane Sila, ministre chargé des Maliens de l'extérieur.
Depuis 2 mois, nous travaillons là-dessus. Il s'agissait d'aller chercher les gens, pas dans Bangui, mais dans d'autres villes lointaines de Bangui. Et pour cela, il fallait s'assurer du concours de la MISCA, s'assurer du concours de l'OIM, des organisations humanitaires qui étaient là, pour permettre vraiment de conjuguer tous ces efforts-là, d'organiser des convois militaires pour aller les chercher. Donc ils sont arrivés à Bangui et aujourd'hui ils sont là à Bamako. Ceci vraiment, il faut rendre grâce à Allah.
Le ministre Sila assure par ailleurs que cette opération de rapatriement est l'une des toutes dernières du gouvernement malien en faveur des Maliens de la Centrafrique. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, le virus Ebola dans la région ouest-africaine effraie les populations et le gouvernement burkinabé, face à cette angoisse de ses citoyens, se prépare au cas où, nous dit de Ouagadougou notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo.
Depuis que le mal avance à grands pas vers les portes du Faso, s'ensuit une peur mêlée d'angoisse.
Comme c'est les pays de la sous-région aussi, je me dis qu'avec les voyages tout, bon, ça peut arriver ici aussi. Ça nous angoisse des...
J'ai bien peur du virus Ebola qui décime ceux mêmes qui traitent les victimes d'Ebola. Et quand tu meurs en plus, il faut brûler ton corps. C'est un drame, il est plus que le sida.
Ça fait peur. Une maladie qu'on ne connaît pas. Un pays pauvre comme nous, vraiment, ça fait peur. Et encore vu aussi que c'est une maladie aussi qui se transmet facilement, donc ça fait peur. On dit aussi qu'il n'y a pas de médicaments pour ça pour le moment.
Moi, ma crainte se situe au niveau même du mode de vie de nous, Burkinabés, parce que nous sommes des populations très collées aux questions sociales. Et c'est une maladie dont le mode de transmission est très, très facile. Et par voie orale, même tu peux contracter la maladie.
Pour temporiser cette peur qui risque de se muer en panique générale, le ministère de la Santé s'est mis en mode alerte. On écoute Léné Sebgo, le ministre burkinabé de la Santé.
Nous avons prépositionné les kits de protection individuelle au niveau de certaines directions régionales pour que, au cas où nous aurons besoin de les utiliser, qu'ils soient facilement transmis. Ces kits-là donc au personnel de santé. Avec les mouvements des personnes aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans notre sous-région qui peut dire qu'il est à l'abri d'une éventuelle contagion. Donc, pour pouvoir nous prévenir et dérouler le plan et puis voir si toutes les personnes concernées l'ont bien approprié et tout naturellement aussi discuter des questions pratiques avec les directeurs généraux des hôpitaux, avec les directeurs régionaux de la santé pour que chacun soit en alerte permanente au cas où malheureusement nous aurions affaire à cette maladie.
Cette préparation préventive a été suivie de l'interdiction de la chasse aux roussettes ou chauves-souris. Pierre Kafando, le directeur de la faune et des chasses au ministère de l'Environnement explique.
Les chauves-souris, les roussettes sont des porteurs sains du virus d'Ebola. Ça veut dire qu'ils ne développent pas la maladie, mais ils peuvent transmettre le virus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre des mesures conservatoires pour éviter que les gens ne rentrent en contact avec les roussettes qui peuvent être des moyens de transmission du virus à l'homme. Les roussettes chauves-souris sont prisées par les gens, donc on fait un appel à tous ces gens, aux tenanciers de restaurants, pour qu'ils évitent d'acheter des roussettes avec des chasseurs ou qu'ils vendent même, qu'ils préparent la viande de roussettes. Les enfants qui manipulent avec des lance-pierres, d'éviter de le faire parce qu'ils peuvent se mettre en danger.
Et ce n'est pas tout, assure Alain-Édouard Traoré, le ministre porte-parole du gouvernement.
Nous avons ciblé un certain nombre de portes d'entrée pour faire face à la situation. Nous surveillons les passagers ou les transporteurs qui rentrent d'un certain nombre de pays. C'est ainsi que deux passagers qui étaient de retour de la Guinée, qui semblaient un peu fatigués, un peu fiévreux, on les a mis en quarantaine pendant 4 jours pour les surveiller avant de les lâcher. Il y a un plan ORSEC qui est en place. Nous surveillons jusqu'aux importations d'aliments. Nous sommes obligés de faire face à cette situation en prenant toutes les mesures.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Face à la progression du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'Organisation mondiale de la santé a décrété vendredi une urgence de santé publique mondiale et a préconisé un certain nombre de mesures aux pays infectés. Lola Akomatri a joint Tariq Djasrevic, porte-parole de l'OMS à Genève.
Depuis le début de cette épidémie, nous travaillons ensemble avec d'autres partenaires internationaux pour apporter un soutien aux autorités sanitaires locales des pays affectés pour mettre en place toutes les mesures qu'on connaît qui sont nécessaires pour essayer de contenir cette épidémie. Il s'agit d'avoir des centres de prise en charge, des centres de traitement où les malades seront traités d'une manière sécurisée, d'avoir assez du matériel et assez de formation pour le personnel médical, pour qu'eux, ils puissent faire le travail en toute sécurité. Il s'agit aussi d'avoir assez de capacités de laboratoire pour pouvoir tester les cas suspects. C'est aussi avoir un système de surveillance et d'alerte au niveau communautaire. Il s'agit des régions très difficile à accéder. Il faut mettre en place un système en impliquant la population locale pour surveiller l'épidémie, suivre ce qu'on appelle contact, donc les personnes qui ont été exposées et qui étaient en contact avec les personnes infectées. Donc il s'agit vraiment de mettre en place toutes ces mesures dans plusieurs localités de maintenant 4 pays affectés. C'est ce qui se fait de manière quotidienne. Aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que on a émis des recommandations à nos pays membres. Qu'est-ce que les pays membres devraient faire, en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transmission du virus à travers les frontières?
Vous avez également eu à écouter les experts, les scientifiques, durant cette réunion. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le sérum ZMapp? Est-ce que vous pensez que ce sérum, compte tenu de l'ampleur de la situation en Afrique, peut être utilisé à titre expérimental sur les patients?
Ça sera exactement l'objet de la réunion où on va se pencher sur ce sujet de l'utilisation des médicaments expérimentaux. Il y a plusieurs aspects qu'il faut que les professionnels de santé, mais aussi les professionnels de l'éthique, vont essayer d'analyser. Par exemple, la sécurité de ces médicaments. Ces médicaments ne sont pas encore testés sur les humains. Donc, comment s'assurer que ces médicaments peuvent être sûrs pour ceux qui l'utilisent? Il y a aussi la question de l'équité, parce qu'on sait qu'il y a un nombre limité de doses qui sont disponibles.
Tariq Djaseravic, porte-parole de l'OMS à Genève. En République démocratique du Congo, la démarcation de la frontière entre le Rwanda et la RDC était au centre des discussions à Goma entre les experts de ces deux pays. Il était question de vérifier les bornes installées en 1910 par la puissance coloniale belge pour éviter les différentes provocations et mettre fin aux éventuels problèmes frontaliers entre les deux pays, et plus particulièrement entre la province de l'ouest du Rwanda et celle du Nord Kivu en RD Congo, nous dit de Goma notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodagiwa.
Les travaux se sont déroulés durant 3 jours à l'hôtel Ihusi de Goma. Les deux délégations des experts rwandais et congolais étaient plus ou moins détendues et déterminées pour trouver une solution durable à ce conflit frontalier. James Ngango conduisait la délégation rwandaise.
Le sentiment qui nous anime de part et d'autre, de récupérer le temps qui a été perdu depuis 2009, parce que les recommandations de la réunion de 2009 qui s'était passée à Rwavu étaient de procéder à la démarcation complète de la frontière commune et de procéder effectivement à la matérialisation de la même frontière pour nous rassurer que de part et d'autre, il n'y a pas de problème qui font que les populations se confrontent ou se disputent.
À l'issue de cette rencontre, les deux parties se sont convenues de constituer une équipe mixte chargée de poursuivre les travaux de reconnaissance sur le terrain. Ces travaux débuteront à Goma du 25 au 30 août prochain si les préalables sécuritaires sont réunis, précise le communiqué final.
Les deux gouvernements assureront conjointement la sécurité de l'équipe technique mixte et sensibiliseront les populations frontalières pendant toute la durée de l'opération. Les deux gouverneurs des provinces limitrophes sont invités à maintenir des rencontres régulières pour faciliter la mise en œuvre des travaux de la commission technique mixte.
Le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, Feller Lutai Chirwa, a félicité les experts de ces deux pays pour le travail abattu.
Cette frontière, qui est théoriquement matérialisée par 22 bornes, dont 5 ont été formellement identifiées, confirmant ainsi les conclusions pertinentes de la session de 2009 à Rubavu et la convergence des vues par rapport aux textes et cartes de base protocole du 25 juin 1911 à Goma, comme postulat, démontre que la suite des travaux n'aura pas beaucoup de mal à se poursuivre.
Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
À présent, la page musicale de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Have You Ever Really Loved a Woman est une chanson écrite par Bryan Adams, Michael Kamen et Robert John pour le film Don Juan de Marco. Cette belle mélodie, Idrissa, a remporté un prix aux Oscars.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms.
Roger, outre sa passion pour le rock, Bryan Adams s'est investi dans plusieurs autres causes, notamment la protection de l'environnement et la lutte contre le cancer du sein.
C'est ça, Idrissa. Il a également participé à des campagnes en faveur des animaux avec l'association PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, considérant que les animaux ne méritent pas d'être tués pour le plaisir gustatif. Je dois préciser ici qu'il est lui-même végétarien depuis 1995 et incite le public à faire de même.
Bryan Adams, have you ever really loved a woman? Merci Roger.
De rien Idrissa, nous saluons nos fidèles auditeurs à Luja, dont la République démocratique du Congo.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.